Martin Shkreli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament.
Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements.
Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État.
L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament.
Alors que l'industrie bénéficie en grande partie de la recherche financée par des fonds publics, elle réussit ensuite à orienter les remboursements vers les médicaments les plus chers.
Le souci principal de l'industrie pharmaceutique est devenu la rentabilité. Leur souci, c'est l'actionnaire et non plus le malade.
C'est un modèle économique très cruel. Si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas de traitement.
Big Pharma, c'est le titre d'un documentaire de grande qualité qui sera diffusé mardi prochain sur Arte et qui a pour objet l'un des plus puissants lobbies économiques de la planète, à savoir l'industrie pharmaceutique. Alors que les plus grands laboratoires mondiaux, le géant français Sanofi, les Suisses Novartis et Roche, les Américains Johnson & Johnson, Pfizer ou Gilead se battent aujourd'hui pour trouver un traitement et un vaccin contre le coronavirus, cette enquête éclairante réalisée avant la crise sanitaire du moment, fruit d'un an de travail, cette enquête donc fait froid dans le dos et jette un pavé dans la mare de la politique de santé publique. Luc Herrmann, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le co-réalisateur de ce film avec Claire Lascaux. C'est un sujet qui tombe à point nommé, même si votre enquête, je le disais, a commencé bien avant la déferlante Covid-19. Est-ce que c'est un plus pour votre film, le fait que ça tombe à pic, ou ça vous embête un peu au contraire?
Non, c'est un plus, évidemment. C'est-à-dire qu'on est tous en attente, mais vraiment tous en attente d'un traitement, d'un vaccin.
Oui.
Il y a une course des chercheurs et il se trouve que cette course, elle est malheureusement énormément sous le joug de très grosses multinationales qui sont très opaques. Et non, je remercie Arte de nous avoir laissé du temps pour enquêter et surtout là d'exposer cette enquête en prime time mardi prochain. Non, je crois que c'est le moment de dans la presse écrite, dans les bouquins, de continuer
à
enquêter sur cette industrie.
Les grosses multinationales, elles vous intéressent, Luc Herrmann, parce qu'on vous doit déjà un documentaire qui a, je crois, 2 ans sur Starbucks. Quels sont les écueils? Quels sont les risques quand vous commencez une enquête sur les multinationales? Quelles sont les grandes difficultés?
Alors, les grandes difficultés sont que ces entreprises communiquent extrêmement rarement, ou en tout cas elles communiquent surtout dans la presse financière. Je n'ai rien du tout contre la presse financière, mais ce sont des méthodes de communication qui vont uniquement, en gros, pour le faire simple, sur le cours de bourse. Et lorsqu'on est journaliste d'enquête, c'est l'écueil de la presse écrite, l'écueil des livres également. C'est une industrie qui parle extrêmement peu, et donc on n'a pas pu filmer dans ces différents laboratoires.
Et c'est explicite dans le documentaire. Vous dites bien, on les a contactés, la plupart d'entre eux, il n'y en a qu'un seul qui vous a répondu oui.
Oui, c'est le laboratoire français Sanofi. Et encore, ils nous ont imposé des conditions pendant l'interview. C'est-à-dire, ces entreprises, les Big Pharma, ce sont les 5-10 plus grands laboratoires mondiaux qui, en gros, contrôlent la moitié des médicaments que nous consommons. Chacune de ces entreprises ont 100 000 employés. Lorsqu'au bout de 2 mois de négociations avec leur service de communication, on vous explique que il est impossible de trouver un interlocuteur, c'est un peu prétentieux pour notre enquête. Enfin, je me permets tout de même d'insister en disant, voilà, si vous avez 100 000 collaborateurs, il y a bien un collaborateur qui va pouvoir s'asseoir devant une caméra pendant une heure pour une chouette interview. Et bizarrement, ce sont plus les services de communication qui nous répondent, mais les services juridiques. Ce qui est une forme d'intimidation. C'est pas une forme de pression, mais une forme d'intimidation. Vous leur posez des questions extrêmement précises et c'est un juriste qui vous répond. Donc c'est très frustrant.
Vous montrez, Luc Herrmann, notamment dans ce film, à quel point les grands labos pharmaceutiques sont devenus, en fait, des machines à profit qui s'assoient la plupart du temps sur la moralité et sur le souci de la santé publique, qui privilégient l'actionnaire plutôt que le malade. Vous êtes pas loin, dans votre documentaire qui dure 1h30, pas loin de dire que les laboratoires tuent et qu'ils s'en foutent, on va le dire comme ça. Est-ce que c'est un film à charge?
Alors, je pense que ce n'est pas un film à charge et je laisserai à vos auditeurs le loisir de pouvoir le décider après ces 90 minutes. Non, sincèrement, on n'a rien contre les laboratoires. On a besoin d'une industrie pharmaceutique puissante pour lancer de la recherche, du développement et présenter sur le marché des médicaments de grande qualité. C'est vrai qu'il y a de très nombreux laboratoires qui cachent les effets secondaires de leurs médicaments dans un but, appelons-le très clairement, dans un but mercantile. Et Malheureusement, les États riches, hein, les agences du médicament ne sont pas assez puissantes. Il y a des contrôles, mais ces contrôles ne sont pas assez puissants. Les sanctions ne sont pas assez sévères pour pousser cette industrie à être plus vertueuse. C'est-à-dire lorsqu'un laboratoire a connaissance de dangers sur son médicament, il faut qu'ils informent immédiatement le grand public et les agences du médicament. Et on démontre dans de nombreuses histoires, comme le scandale la Dépakine chez Sanofi, que le laboratoire avait connaissance d'effets secondaires graves sur les femmes enceintes de son médicament et qu'ils ont malheureusement considérablement tardé à informer les autorités de santé.
Le film suit une succession de cas. En effet, la Dépakine, qui est un d'ailleurs des médicaments les plus vendus au monde et qui sert
c'est un médicament très efficace
contre l'épilepsie, hein, il faut le rappeler, et qui est encore au cœur d'un scandale sanitaire parce qu'il est dangereux, en effet, pour le fœtus de la femme enceinte. Puis on voit les opioïdes aux États-Unis qui sont utilisés comme antidouleurs et qui sont vraiment l'objet d'un scandale sanitaire de très très grande.
Oui, les laboratoires ont caché échelle. Que c'était addictif. Voilà, ils le savaient, ils l'ont caché.
Le traitement de la DMLA, qui est la dégénérescence de l'œil due à l'âge, vous montrez un accord entre Novartis et Roche sur le dos des patients. On voit aussi le médicament contre l'hépatite C, développé par Gilead aux États-Unis, qui coûte 84 000 $, c'est-à-dire un comprimé coûte 1 000 $, 42 000 € sur le marché européen. Ou encore le traitement de la leucémie, développé par Novartis, qui coûte 320 000 €. Pourquoi ces cas-là, particulièrement, Luc Herrmann ? Par exemple, il n'y a pas le Mediator.
Alors, pour les chiffres que vous venez de donner, voilà. Alors, il se trouve que notre enquête a été menée au moment du procès de Mediator. Donc on a effectivement volontairement décidé de ne pas s'y intéresser. Pour également une autre petite coulisse ce dont on parle ici, c'est que Arte avait déjà consacré une soirée théma sur le Mediator. Donc, pourquoi ces cas-là ? Pour les chiffres que vous venez de donner. Voilà. Les médicaments dont vous venez de parler sont extrêmement efficaces, doivent absolument être sur le marché et sauvent des vies. Il n'y a aucun débat là-dessus. En revanche, le prix de 320 000 € pour traiter une leucémie chez les adolescents, c'est un traitement exceptionnel qui est excessivement cher, et tous les professeurs de santé publique le disent, c'est un traitement qui devrait coûter autour de 40 000 ou 50 000 €, ce qui est déjà beaucoup d'argent, mais c'est un traitement extrêmement complexe. Là, Novartis est dans une opération financière. Novartis est le numéro un mondial du médicament, un grand laboratoire suisse. Ils ont racheté un brevet développé avec de l'argent public dans l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, donc avec des chercheurs qui ont été financés par les impôts américains. Le laboratoire peut parfaitement arriver. Il n'y a rien du tout contre une entreprise privée qui peut venir développer ce médicament. Le traitement de 320 000 € met en danger nos systèmes de santé publique. C'est-à-dire que de telles dépenses pour nos grandes démocraties vont devenir absolument impossibles tellement ce prix est cher. Donc c'est aux États de mettre des pressions plus importantes sur les labos pour avoir des prix raisonnables.
C'est ça que dit le film, que cherche à montrer le film ?
Je pense. Voilà. On a eu la possibilité, après de longues négociations, d'interroger des grands professeurs qui ont travaillé beaucoup avec l'industrie pharmaceutique, qui expliquent que l'industrie pharmaceutique, on l'entendait dans le petit extrait que vous avez diffusé tout à l'heure.
Qui est un extrait de votre film.
Merci. L'industrie pharmaceutique a la puissance de négociation d'un État. C'est-à-dire que la France, malheureusement toute seule, est bien incapable d'imposer des prix raisonnables. Donc là, oui, c'est une sorte c'est un dossier est éminemment politique, c'est aux États d'être beaucoup plus puissants face à ce lobby.
Luc Herrmann, on le voit aujourd'hui dans la recherche pour le traitement, pour le vaccin contre le Covid-19, les États montent en gamme, les États cherchent à dire aux laboratoires, cherchent à imposer un prix raisonnable, cherchent d'ailleurs un peu de coopération aussi entre les pays, puisque vous dites, en tous les cas certains de vos intervenants, qui sont des experts, qui sont des témoins, qui sont des avocats, qui sont des médecins, dans votre film le disent, pour avoir des prix raisonnables, il est indispensable que les pays aient une coopération. On le voit quand même aujourd'hui qui cherchent à avoir une coopération et à mettre un frein justement à cette avidité, disons, des laboratoires.
Vous avez parfaitement raison. C'est un réel espoir et c'est en cours. L'Union européenne à Bruxelles a commencé à négocier avec certains laboratoires qui ont des traitements prometteurs, qui ne sont pas encore sur le marché. Les études cliniques sont en cours, mais effectivement, pour la première fois, avec une pandémie d'une telle ampleur, les politiques européens se sont mis tous ensemble pour commencer à négocier des prix raisonnables. Jusqu'à présent, on interroge Marisol Touraine, qui a été longtemps ministre de la Santé lors du quinquennat de François Hollande. Elle nous a clairement expliqué devant notre caméra à quel point, dans les réunions avec l'Allemagne, il pouvait se dire « on va faire attention sur les prix », mais malheureusement, les négociations étaient totalement secrètes. Par la suite, les laboratoires ont imposé des clauses de confidentialité importantes avec les États et la France ne pouvait pas négocier des prix à la baisse toute seule.
Et vous disiez que vous montriez avec ce film la faiblesse actuelle, en tous les cas, de la puissance publique, même s'il y a quelques avancées. Dans le film, on voit aux États-Unis en 2019 la condamnation de Johnson & Johnson, immense laboratoire pharmaceutique, par un juge de l'Oklahoma. Condamnation à payer un demi-milliard de dollars pour avoir mis en danger la santé des habitants à cause des opioïdes. Et puis on voit aussi l'efficacité de la justice, l'efficacité de certaines associations de citoyens, par exemple ce qu'a réussi à faire une lanceuse d'alerte, Marine Martin, dans le cas de la Dépakine. Début août, Sanofi a été mise en examen pour homicide involontaire. Plus récemment, puisque c'était cette semaine, mercredi, l'autorité française de la concurrence a sanctionné les groupes suisses Novartis et Roche et la filiale Genentech à hauteur de 445 millions d'euros. C'est vraiment des chiffres faramineux à chaque fois, pour des pratiques abusives visant à préserver les ventes du médicament Lucentis dans ce fameux traitement de la DLMA. On voit des avancées quand même, Luc Herrmann. Tout n'est pas à désespérer.
Du tout. Ces avancées ont pris beaucoup de temps. Malheureusement, la justice prend énormément de temps, voilà, avant que ces laboratoires soient condamnés. Je ne suis absolument pas anti-médicaments. Les sommes que vous donnez sont extrêmement importantes pour vos auditeurs ce matin. Elles ne sont pas si importantes pour ces laboratoires. L'action de Johnson & Johnson au moment de sa condamnation aux États-Unis a effectivement 500 millions d'euros d'amende. L'action a monté parce que les actionnaires s'attendaient à ce que la sanction soit plus importante. Donc, ce chiffre ces condamnations semblent extrêmement importantes. Elles ne sont pas si importantes pour ces laboratoires qui, entre-temps, ont continué à faire des affaires. Et pendant la pandémie, les affaires continuent. Ces sanctions doivent être plus rapides et beaucoup plus importantes pour contrôler cette industrie.
Elles ne sont pas importantes pour les labos, elles le sont pour nous, en particulier en France, puisque on comprend bien, en l'occurrence, que le trou de la sécurité sociale, qui rembourse par exemple les 320 000 euros du médicament contre la leucémie de Novartis, ou le Sovaldi contre l'hépatite C qui coûte 42 000 euros pour 3 mois, eh bien, ce trou-là n'est pas dû aux petits vieux qui achètent trop de médicaments, comme on a tendance à nous le dire, mais bien à ces laboratoires qui fabriquent des médicaments et les vendent extrêmement cher. Quand même, Luc Herrmann, dernière question. Un autre film aurait-il été possible? Vous dites de très nombreux laboratoires, mais sans doute pas tous. Vous dites aussi que vous n'êtes pas anti-médicaments, mais on se dit en ce moment, on a la défiance, la spirale de la défiance et du complotisme contre les médicaments, la santé, etc. Est-ce que vous auriez pu aller voir d'autres laboratoires qui ne pratiquent pas leur travail avec autant d'amoralité?
Vous avez parfaitement raison, il y en a plein. On a fait un choix, et justement pour lutter contre les théories du complot, on a fait un choix d'aller chercher des très gros laboratoires qui menacent la santé publique, comme vous le disiez, et les finances publiques. Et on a cherché des cas extrêmement importants qui sont non seulement avérés, mais qui sont surtout extrêmement massifs dans le monde entier. Donc je pense que notre choix permet justement de lutter contre la théorie du complot pour montrer qu'effectivement ils ont beaucoup de pouvoir. Il y a plein de laboratoires extrêmement vertueux sur le marché également.
Merci beaucoup Luc Herrmann et merci pour cette enquête qui est remarquable et salutaire en ce moment. Big Pharma, labo tout puissant, ce sera sur Arte mardi à 20h50, suivi d'un entretien avec vous mené par notre camarade Émilie Aubry. C'est déjà disponible sur arte.tv.